Bienvenue. Bienvenue pour le deuxième épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Trois segments dans cet épisode comme d'habitude, l'édito, dans lequel je vais vous présenter le site mesphotos.com, le segment principal qui sera consacré à la préservation, à la présentation et à la conservation des portraits pris en jet d'encre, et enfin votre section, la section avec vos commentaires, vos réactions. Et là, je dois dire franchement, la réaction à l'épisode 0, à l'épisode 1, a largement dépassé mes attentes. Merci beaucoup de votre soutien. Premier segment, donc l'édito, qui est consacré au site mesphotos.com. Alors, mesphotos.com, c'est en fait un comparateur de laboratoires en ligne, là où vous pourrez faire tirer vos photos, justement. Et le site va comparer tous les laboratoires en ligne pour trouver celui qui est le plus intéressant pour un type de travaux donné. Donc selon que vous voulez faire 100 tirages, que vous voulez imprimer sur une tasse, que vous voulez faire un nounours, que vous voulez faire un t-shirt, il va vous trouver les laboratoires les plus intéressants pour vous. Et la comparaison est bien faite parce qu'elle prend en compte non seulement le coût du tirage, mais également tous les frais annexes, les frais de port, les frais de traitement, puisque maintenant certains laboratoires abaissent artificiellement leur prix en comptant en fait sur le côté des frais de traitement, honte sur eux, il faut le dire. Et les promotions éventuelles. Et donc c'est sur le prix final que vous aurez réellement à payer que mesphotos.com vous conseille un laboratoire. L'adresse est super simple à retenir, www.mesphotos.com, au pluriel, en un seul mot, pas de tiret dans le nom. Je crois que le site est particulièrement pertinent parce que quand je parle avec des amis qui sont mis au numérique, il y en a beaucoup qui me disent « en fait j'ai encore fait aucun tirage, ça va faire un an et demi que j'ai cet appareil, et je n'ai toujours fait aucun tirage ». Et ils ne sont pas les seuls. Il y a une enquête qui a été réalisée par le magazine Le Photographe de mars qui montre que 20% des ménages français utilisant un appareil photo n'ont réalisé aucun tirage. Plus étonnant encore, il y a un certain nombre de ménages qui conservent un appareil argentique uniquement pour obtenir des tirages. Donc ils photographient la vie de tous les jours en numérique et on photographie les événements genre communion et autres en argentique. Non pas parce que l'argentique aurait une qualité supérieure, mais simplement parce qu'on sait comment obtenir un tirage d'un document argentique. Sincèrement, utiliser un labo en ligne, c'est très simple. Le labo que vous allez sélectionner vous guidera pour l'envoi des fichiers que vous pouvez envoyer par Internet ou par CD-ROM, par la poste, et vous recevez vos tirages quelques jours après. Et ce qui est très intéressant, ce sont les tarifs. Pour vous donner une idée, un ordre de grandeur, en utilisant mesphotos.com, basé évidemment sur les tarifs du jour, donc en avril 2006, si vous souhaitez réaliser 200 tirages, ça vous coûtera 15,50€, soit seulement 8 centimes d'euros à la photo. Plus intéressant, si vous réalisez 500 tirages. Alors 500 tirages, ça paraît énorme, et puis en même temps, quand on pense au nombre de photos numériques qu'on prend, on se dit que c'est pas nécessairement inaccessible. Si ça va faire un an et demi, deux ans, vous n'avez plus fait aucun tirage, et bien 500 photos vous coûteront seulement 26,95€, soit 5 centimes d'euros la photo. Moi, je crois qu'à la limite, avec ce genre de tarif, c'est même plus nécessaire, et c'est ce que je fais moi, c'est plus nécessaire de faire un tri très strict dans les photos. Il faut éliminer évidemment les photos mal exposées, les photos floues, les photos complètement ratées, mais tout le reste, on les envoie au tirage, et puis on se dit, bon, bah, on triera une fois qu'on aura récupéré les tirages, et on en rejettera même quelques-uns. Le tarif n'est franchement pas exagéré. Mesphotos.com s'appuie sur, pour faire sa comparaison uniquement sur le prix. Il est clair qu'il y a d'autres critères, la qualité du papier, etc. Donc, il ne vous propose pas le meilleur site, mais il vous en propose en fait 10. À vous après de visiter et de sélectionner par rapport à votre travaux le laboratoire qui méritera en fait de tirer vos photos. Ce qui nous amène au deuxième segment de cet épisode, consacré au thème principal, la préservation et la conservation des portraits jet d'encre. Le premier épisode de Déclencheur était assez technique puisqu'on y parlait en fait de balance des blancs. J'ai voulu suivre avec un épisode plus consacré au plaisir de la photo. Et une des grandes sources de plaisir en photo, pour moi, reste de sélectionner une bonne image, la faire agrandir ou l'agrandir, la tirer à la jet d'encre, la faire encadrer et l'accrocher au mur. C'est, je trouve, la meilleure manière de profiter de sa photo et de la partager avec la famille et les amis. En particulier, quand on va parler de présentation et de conservation des portraits, on va s'intéresser à la conservation. D'abord, c'est un sujet qui interpelle. Il y a une étude récente d'Epson qui montre que 72% des ménages pensent qu'il est important que les photos ne s'abîment pas dans le temps. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les photos font partie de la mémoire de la famille. Après une catastrophe, après une évacuation, quand les gens reviennent dans leur habitation, rechercher leurs photos est généralement un des premiers réflexes pour retrouver un peu le patrimoine de la famille. Or, la conservation n'est pas évidente. Vous verrez qu'en partant d'un thème a priori en finale fort simple, mettre un tirage sous verre, dès lors qu'on intègre l'aspect conservation, on arrive à un épisode, je crois, qui est plutôt touffu. Tellement touffu que j'ai choisi d'accompagner cet épisode d'un petit PDF illustrant la technique et résumant un petit peu la technique. Le PDF n'est pas prêt au moment de l'enregistrement de cet épisode, mais il arrivera dans le flux de l'abonnement dans les prochains jours. Donc si vous êtes abonné à Déclencheur, ne vous inquiétez pas, vous recevrez automatiquement votre PDF dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben voilà l'occasion idéale pour vous abonner. Je rappelle que l'abonnement est complètement gratuit. Revenons à la conservation. La conservation n'est évidemment pas un problème qui ne concerne que le portrait et le jet d'encre, mais je crois que c'est là que c'est le plus pertinent. C'est clair que si après 20 ans, une photo de paysage qu'on a accrochée au mur est passée, ben après 20 ans, on veut sans doute de toute façon refaire sa déco, donc on l'enlevera et on la remplacera par une autre. Par contre, un portrait, s'il est passé après 20 ans, c'est un peu de son souvenir qu'on perd. Donc c'est particulièrement pertinent la technique de conservation pour des portraits. Le jet d'encre, parce que dans ce qui est accessible aujourd'hui, dans les techniques accessibles aujourd'hui à l'amateur, c'est le jet d'encre qui semble avoir les meilleurs, le plus grand potentiel en matière de garde et en matière de conservation. À condition d'être prudent, et ensemble, donc on va voir comment justement être prudent. Les fabricants de matériel photo, les fabricants de papier, les fabricants d'encre et d'imprimantes donnent pas mal de conseils pour la conservation, mais ces conseils sont souvent très incomplets. Et dans cet épisode, je vais essayer de faire la synthèse d'un assez long travail de recherche que j'ai fait, recherche partiellement sur Internet, où on trouve toutes les infos techniques à condition de creuser, de creuser, de creuser, et recherche en discutant avec différentes boutiques spécialisées et en allant un petit peu à la pêche à l'information. J'ai essayé de vous faire la synthèse de tout ça et la synthèse de mes réflexions actuelles en la matière. Je précise que je ne suis pas encadreur professionnel, donc je présente cette technique avec l'humilité du non-professionnel. Le cas échéant, vous n'hésitez pas à compléter le propos en rajoutant vos expériences sur le site www.déclencheur.com. En termes de longévité, ce qu'il faut savoir, c'est que les caractéristiques du jet d'encre et des tirages laboratoires classiques sont assez différentes. La longévité du jet d'encre peut être extraordinaire, et particulièrement pour des photos couleurs. C'est relativement simple de faire des tirages noir et blanc qui vont tenir dans le temps, c'est beaucoup plus compliqué de faire des tirages couleurs qui vont tenir dans le temps. Pour vous donner une idée, le papier Kodak Royal, qu'on présente souvent comme étant le papier le plus formidable, en exposition sous verre, on lui donne une durée de vie d'une vingtaine d'années. Donc formidable pour un paysage, vous aurez refait la déco avant, peut-être pas génial pour un portrait. En comparaison, les meilleurs papiers de tirage laboratoire semblent être le Fuji Crystal Archival, auquel on donne une soixantaine d'années de vie. Et les meilleurs jets d'encre font facilement plus de 100 ans. Donc on voit qu'entre le papier Kodak et le papier Fuji, on a déjà un bond, puisqu'on passe de, en substance, de quoi tenir depuis la naissance jusqu'à la majorité à de quoi tenir depuis la naissance jusqu'à la retraite. Mais avec le jet d'encre, on a un potentiel encore beaucoup plus grand, puisqu'on dépasse la génération en fait. Mais par contre, la résistance de ces tirages est très différente. Le jet d'encre a une excellente résistance à la lumière quand on expose la photo, mais il a une beaucoup moins bonne résistance à l'humidité, par exemple. Et c'est un peu par définition, hein, le tirage en laboratoire requiert des bains, et donc forcément les papiers qu'on utilise doivent résister à l'humidité. On peut laver facilement un tirage photo, c'est pas évident de laver un tirage jet d'encre. Les jets d'encre ont également une résistance a priori plus faible au gaz. Et évidemment, la résistance à l'abrasion, le fait de passer, de frotter deux ou trois papiers l'un sur l'autre, est beaucoup plus faible avec le jet d'encre, là aussi, qu'avec le tirage labo. Donc il faut tenir compte de ces caractéristiques différentes. On a beaucoup de potentiel, à condition de se doter des techniques pour en prendre soin. Le jet d'encre a quelques autres qualités, je crois, par rapport à cet aspect d'agrandissement et de mise en valeur d'une photo. Du point de vue de l'amateur, je crois que c'est aujourd'hui l'alternative idéale à la chambre noire dans laquelle on allait tirer ses photos. Vous savez, c'est cette pièce un peu malodorante qu'on installait dans une cave. Moi, j'avoue ne jamais avoir été réellement un fan de ce genre de choses avec un agrandisseur, parce que d'abord, j'aimais pas du tout le traitement avec les produits chimiques. Et deuxièmement, je regrettais beaucoup d'être limité au noir et blanc. Avec une imprimante jet d'encre de qualité, on a vraiment accès au tirage couleur, et ça, c'est formidable. Et on peut travailler en pleine lumière, on peut travailler sans produits malodorants, etc. Donc c'est un gain phénoménal de mon point de vue en tout cas. Deuxièmement, le jet d'encre est la formule la plus compétitive pour les agrandissements. Si vous faites tirer un agrandissement dans un laboratoire, ça va vous coûter relativement cher. Le jet d'encre sera moins cher. C'est pas vrai, par exemple, c'est pas automatique pour les tirages 10-15. les petits tirages et tirages format carte postale, les laboratoires sont plus compétitifs. Sur la base du tirage, on va essayer de maximiser trois critères en fait. On va essayer de maximiser la protection de la photo pour qu'elle dure le plus longtemps possible. On va essayer de maximiser sa mise en valeur pour maximiser notre plaisir, qu'elle soit belle, qu'on ait le plaisir des yeux. Et on va rester sur des coûts et des techniques qui sont raisonnables pour l'amateur. Il semblerait que les techniques qui assurent la meilleure conservation sont basées sur des frigos dans lesquels on va stocker la photo, des frigos spécialisés, il ne faut pas le mettre dans un frigo de ménage. Bon, c'est certainement très intéressant, mais ce n'est pas des techniques destinées à l'amateur, c'est des techniques destinées à des fonds photos. Donc je ne vais évidemment pas rentrer dans ces aspects-là. Et puis deuxièmement, dans le frigo, on a beaucoup de mal à profiter en fait de sa photo, hein. Elle est évidemment cachée. Pour assurer une bonne conservation et une bonne mise en valeur de la photo, le point de départ, c'est d'avoir un bon tirage. Et un bon tirage, ça veut dire une bonne imprimante, une bonne encre et un bon papier. Et la bonne adéquation entre l'encre et le papier. Tous les papiers ne donnent pas bien avec toutes les encres. En gros, en partant avec l'encre, il y a deux grandes technologies. Les encres à colorants et les encres à pigments. Il y a eu beaucoup de développement en matière d'encre pour les photos, pour l'impression photo depuis 2000, sous l'impulsion du fabricant Epson, qui a vraiment travaillé en matière de nous doter d'imprimantes qui assurent une bonne conservation. Jusqu'à peu près 2000, en fait, on tirait les photos sur des imprimantes type bureautique, légèrement adaptées pour avoir une meilleure résolution et des couleurs un petit peu plus jolies. Le but à l'époque était vraiment de pouvoir tirer une photo très rapidement, faire ce qu'on appelle un proof, donc un tirage de test très rapidement. Mais ces photos n'avaient aucune prétention en termes de longévité. Et en fait, en quelques mois, la photo pouvait passer, selon l'imprimante, selon le fabricant. HP, à une époque, vendait des photos en annonçant assez clairement du papier photo, en annonçant une résistance de 2 à 3 ans quand on expose la photo. Alors 2 à 3 ans, c'est vraiment très très faible et c'est nettement en dessous de tout ce qu'on a été habitué en matière de labo. Epson a été apparemment le premier fabricant qui s'est intéressé à la longévité des photos et depuis 2000, il pousse l'utilisation d'encres dites pigmentaires par opposition aux encres à colorants. Et ces encres pigmentaires ont la capacité d'être beaucoup plus résistantes. Alors rapidement, les encres à colorants sont des encres qui ont l'avantage d'offrir des couleurs éclatantes, une saturation très élevée. Donc ce sont les encres qui vont donner les couleurs les plus plaisantes à regarder immédiatement et facilement, mais ce sont aussi des encres qui vont moins bien résister au temps et qui ne résistent absolument pas à l'humidité. Donc un tirage fait avec des encres à colorants, il a une conservation, fait sur du bon papier et conservé dans de bonnes conditions, il a un potentiel de garde de 25 à 40 ans. De nouveau, ça peut être génial pour certaines photos, je répète, une nature morte qu'on met au mur pendant 40 ans, moi je m'en serais lassé avant, mais par contre c'est certainement pas la formule idéale par rapport à notre objectif de conservation. A l'inverse, pour la conservation, on va préférer des encres pigmentaires. Alors les encres pigmentaires, ça donne des couleurs un peu moins claquantes, ça permet d'avoir moins de contraste dans la photo, ce sont les encres qui offrent la durée de vie la plus longue. Les encres pigmentaires se rapprochent en fait de l'impression en lithographie. La lithographie, c'est un procédé de reproduction en pièces d'art qui a démontré sa résistance au temps. Donc en s'appuyant sur les encres pigmentaires, en fait, on s'appuie sur des techniques qui ont déjà un petit peu fait leur preuve, même si on les a remis dans une forme qui est beaucoup plus accessible à l'amateur, l'imprimante de bureau, par opposition à cette pierre et ces presses spécialisées. Le champion de l'encre pigmentaire et donc de la longévité, c'est Epson, avec ses encres DuraBright et ses encres UltraChrome. Mais les autres grands fabricants, HP et Canon, suivent, et HP vient de sortir avec beaucoup de fanfare ses encres pigmentaires baptisées Vivera. Notez, quand je dis les encres à colorants, c'est des couleurs éclatantes, une saturation élevée, les encres pigmentaires, c'est de la conservation, ce sont évidemment des tendances. Il est clair que les fabricants, comme d'habitude, travaillent à obtenir le meilleur mélange, et donc ont beaucoup travaillé pour que les encres pigmentaires aient elles aussi de belles couleurs, et du contraste et de la saturation, et les encres à colorants, on a aussi travaillé pour augmenter leur résistance. Hein. Au début, elles résistaient 3 ans, maintenant on en est à 40, donc il y a quand même du potentiel, il y a quand même des choses à faire en la matière. Le deuxième aspect de la conservation du tirage, c'est le support, c'est-à-dire le papier sur lequel on imprime. Et là, en l'occurrence, il y a deux types de papiers, les papiers brillants et les papiers mat. Les papiers brillants, de nouveau, sont ceux qui vont nous donner les tirages les plus plaisants, parce que ce sont des papiers qui vont avoir un contraste très élevé. Les noirs seront très profonds, et donc il y a une grosse différence entre le noir et le blanc, et donc beaucoup de tonalités qui peuvent être produites. Ce sont aussi, malheureusement, les papiers qui, a priori, vont donner les tirages les moins résistants. Pour différentes raisons, ce sont des papiers plus sophistiqués, je dirais, avec généralement plus de couches, et donc plus de risques d'interaction entre les couches, et ce sont des papiers qui sont idéalement adaptés aux encres à colorants. Par contre, par rapport à l'aspect conservation, et en particulier si on utilise des encres pigmentaires, on va plutôt privilégier le papier dessin, le papier traditionnel pour dessin. L'idéal, le saint graal, si vous voulez, de la conservation, étant le papier coton 100%, qui sont les papiers apparemment offrant la plus grande résistance au temps. Parce qu'il est clair que vous pouvez avoir un tirage de bonne qualité avec des bonnes encres, si le papier s'abîme, bah forcément votre tirage ne va pas se conserver. Alors quand je parle de papier mat, attention, c'est pas le même papier qu'utilisent les labos quand vous demandez un tirage mat. Ce sont vraiment des papiers style papier dessin, style papier aquarelle, sur lesquels on va mettre en fait souvent une couche réceptrice pour améliorer la réception du papier, la capacité du papier d'absorber les encres d'imprimante. Mais ce sont des papiers style papier dessin, donc qui sont vraiment complètement mat. On les vend généralement dans les magasins photo sous l'appellation papier d'art. Personnellement, mais c'est très personnel, j'ai toujours préféré les tirages mat, et en particulier pour des portraits. Parce que je trouve qu'un tirage mat a cet avantage qu'on peut le regarder sous n'importe quel angle, on n'a jamais de reflet. Et donc ça donne des images qui, je trouve, sont beaucoup plus agréables à voir. Mais c'est vrai, après, il y a une question de goût, les couleurs sont moins saturées. Comme je le disais, ce sont ici des grandes tendances. Les fabricants ne cessent d'améliorer leurs produits. Je vous rassure également, si vous n'avez pas aujourd'hui une encre pigmentaire, c'est pas nécessairement ruineux. Epson, par exemple, a à son catalogue une imprimante à encre dite Durabright, qui sont donc des imprimantes pigmentaires, et qui coûtent 80 euros. Donc c'est un petit peu plus cher que les imprimantes vraiment entrée de gamme, mais ce sont des tarifs qui sont tout à fait classiques pour des imprimantes photo. Évidemment, si vous voulez aller dans le fin du fin de l'encre pigmentaire, en avril 2006, c'est l'encre dite Ultrachrome K3 d'Epson, et là on est dans une toute autre gamme de prix, puisqu'on démarre aux alentours de 1000 euros pour une imprimante. Sur les encres, moi je me pose pas de questions, je prends systématiquement l'encre du fabricant, en tout cas pour du tirage photo. On trouve en magasin des encres tierces qui ont l'avantage d'être beaucoup beaucoup moins chères, mais ce sont des encres qui sont plutôt formulées pour la bureautique. Et donc la conservation des couleurs, la conservation de la photo n'a pas été un critère dans la conception de l'encre, et donc je préfère ne pas prendre de risque et prendre l'encre du fabricant. Notez qu'on trouve en matériel haut de gamme et en matériel pro, des encres spécialisées Pantone en fabrique par exemple, qui sont censées être encore meilleures que les encres du fabricant. J'avoue que je n'ai pas fait ce genre de test parce que là on rentre à mon avis dans des gammes vraiment professionnelles qui dépassent nettement l'intérêt de l'amateur. Pour les papiers, quand je tire sur une imprimante à colorant, j'ai une Canon pour ce faire, quand je tire sur une imprimante à colorant, des papiers brillants, eh bien je prends les papiers du fabricant. Ils ont étudié les papiers pour compléter les encres et protéger au mieux les encres, et on se rend compte qu'en fait les technologies à colorant sont assez spécifiques et il faut prendre un papier adapté à l'encre, et donc je ne me pose pas la question là, je prends les papiers du fabricant. Par contre, avec des encres pigmentaires, on est beaucoup plus libre. Ces encres sont naturellement très résistantes, et donc à condition de prendre un bon papier, un papier ayant une bonne résistance naturelle, eh bien vous pouvez sans problème aller auprès d'autres fabricants. Le bon papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire idéalement un papier ayant un pH neutre, c'est-à-dire pas d'acidité naturelle. Parce que l'acidité, c'est une des choses qui va détruire le papier. Quand vous voyez les papiers qui sont ternis, qui sont devenus bruns, en fait, c'est de l'acidité qui a abîmé le papier. Le deuxième aspect auquel vous pouvez regarder, ce sont des papiers ayant une réserve alcaline. Quand vous mettez le papier en contact avec un produit acide, par exemple, quand vous mettez le papier en contact avec le bois du fond de l'encadrement, eh bien, l'acidité du bois va migrer dans le papier. Et la réserve alcaline va préserver l'acidité neutre du papier pendant plus longtemps. Dernier élément, vous pouvez aussi choisir des papiers dits sans azurant optique. Les azurants, c'est en fait ce qui assure la belle blancheur du papier. C'est ce qui fait que le papier est plus blanc que blanc, si je puis dire. Mais malheureusement, ces azurants ont tendance à s'user dans le temps et donc à changer la coloration du papier. Alors il ne faut pas non plus se prendre la tête en la matière. Choisissez un bon papier. Un papier sans acide, c'est déjà une garantie d'avoir une bonne conservation. Vous les trouverez soit dans la marque du fabricant, soit en faisant appel à des papetiers tiers. Tous les grands papetiers, les gens qui font depuis longtemps du papier dessin, se sont mis au papier jet d'encre. Donc vous trouverez des papiers chez Canson, chez Somerset, chez Arch. Et vous avez également des papetiers plus modernes qui sont apparus avec le jet d'encre et qui font des papiers de conservation spécialisés jet d'encre. Les deux principaux disponibles en Europe, c'est Moab, qu'on trouve sur la boutique Photim, donc la boutique de chasseurs d'images, et le fabricant Permajet, que lui on trouve en boutique photo. Personnellement, j'aime beaucoup le papier Permajet portrait double face. Si vous n'avez pas le matériel pour faire un tirage pigmentaire, une imprimante, si vous ne voulez pas vous embêter dans la sélection des papiers, etc., je vous invite à faire réaliser le tirage par un laboratoire. Une fois que vous avez réalisé le bon tirage, ben, l'étape suivante, ça va être de protéger ce tirage. Deux techniques, vous le mettez dans l'album photo, à condition d'avoir un album sans acide, ou dans une boîte, elle aussi idéalement une boîte sans acide, et votre photo est bien protégée. Le gros avantage, c'est qu'elle est à l'abri de la lumière, et donc elle est bien bien protégée d'un des éléments qui abîme le plus la photo. Ma technique préférée toutefois, je ne suis pas un fan de l'album, ma technique préférée, c'est de mettre la photo sous verre. Et le principe pour mettre la photo sous verre, ça va être de l'isoler autant que possible des polluants. Une petite anecdote en la matière, tant que j'encadrais peu, parce que je faisais du paysage et donc j'encadrais une fois de temps en temps une de mes photos, ben je faisais appel à un encadreur. Depuis que je fais du portrait, j'ai découvert immédiatement qu'en fait les portraits sont beaucoup beaucoup plus populaires auprès de la famille, auprès des amis, et donc je me retrouve avec beaucoup beaucoup plus de tirages et l'encadreur est évidemment devenu prohibitif. J'ai aussi maintenant parfois un ami, une connaissance qui me fait le plaisir, l'amitié de venir poser au studio ou de me demander de prendre une photo de son fils ou de sa fille, ce qui veut dire également des tirages supplémentaires. Et là, clairement, je me suis rendu compte que faire systématiquement encadrer des photos allait me ruiner. Je m'arrête quand je remets une photo à la famille ou des amis au passe-partout. Je monte la photo sous passe-partout, je mets un carton de protection, je vais revenir un carton de base, je vais revenir dans un instant, et je remets la photo comme ça. Elle est mise en valeur par le passe-partout, elle est très belle, et elle peut être montée après, libre à la personne d'aller choisir le cadre le plus approprié dans la gamme de prix qu'elle choisit et dans les couleurs qu'elle va choisir, parce que c'est pas évident non plus d'aller choisir un cadre pour quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas familier du passe-partout, ce sont en fait ces cartons dans lesquels on découpe une fenêtre, et la photo va être placée sous le carton. Par rapport à la conservation, quand on monte la photo sous verre, on la prend dans une espèce de sandwich avec d'abord le verre. Le verre est très important parce qu'il protège la photo des UV, donc des aspects destructeurs de la lumière. Il la protège aussi des gaz et des autres polluants atmosphériques. Notons qu'il y a des verres traités anti-UV, mais même un verre non traité arrête déjà une grosse partie des rayons UV. Ensuite, derrière le verre, on va placer le passe-partout, qui va protéger la photo de l'acidité du cadre et qui va éviter que la photo ne soit en contact direct avec la vitre. Ensuite vient le tirage. Et puis derrière le tirage, un carton qui va lui pour également protéger la photo de l'acidité du cadre. Et puis derrière, il y a la fin du cadre, c'est-à-dire le fond en bois. Le principe est que tous les éléments avec lesquels le tirage est en contact doivent être des éléments à acidité neutre pour éviter un peu de détériorer la photo. Quelque part, ils vont servir de tampon, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être en contact avec l'acidité, c'est eux qui vont s'abîmer, mais votre tirage va rester parfait. Ce qui amène à un deuxième principe de la conservation, c'est de ne rien monter de façon permanente. Et c'est quelque chose d'assez récent en photographie, parce que jusqu'à 15 ans, 20 ans, on avait tendance à vouloir coller les photos sur un support pour assurer pour éviter tout gondolement, pour assurer une rigidité parfaite de la photo. L'inconvénient, c'est quand le support en question se dégrade, eh bien on ne peut pas facilement le démonter, séparer la photo de son support. Donc par rapport à de la conservation, on va plutôt avoir tendance à ne pas faire un montage permanent. Allons-y pour le montage de la photo étape par étape. Que faut-il ? Il faut un carton dit contre-collé, une surface de découpe qui va vous permettre d'utiliser un cutter sans aller abîmer la belle table du salon, le cutter, une latte, des coins qui vont servir à attacher la photo et un sous-verre. Si vous voulez mettre vous-même la photo sous-verre, si c'est une photo à offrir, je répète, je m'arrête avant le sous-verre, je fais simplement le montage. Le contre-collé, c'est un carton assez rigide de 1 mm, 1,5 mm d'épaisseur sur lequel est collée une feuille de papier dessin colorée. Donc la feuille de papier dessin, par le jeu des couleurs et le jeu de la découpe, va venir mettre en valeur la photo. Le contre-collé, c'est un carton qui est très facile à découper au cutter. Évidemment, on va choisir un carton sans acidité. Et par exemple, on va se tourner vers la gamme Kenson qui offre une gamme conservation et une gamme mi-teinte qui sont des cartons au pH neutre. On les trouve très facilement dans les boutiques de matériel d'artiste et les boutiques de matériel d'encadrement. Il faut compter une dizaine d'euros, pris en avril 2006, pour avoir une feuille dans laquelle on va pouvoir découper 8 cadres servant à encadrer un A4. Donc ça revient à, mettons, 3 euros, 4 euros si vous avez un petit peu de déchets, pour avoir, puisqu'il faut deux cartons, un carton au-dessus, un carton en-dessous, pour pouvoir préparer une photo. Donc ce n'est pas un tarif qui est excessif, à mon sens. On va découper dans la grande feuille qu'on a achetée, on va découper deux cartons à la taille du cadre, donc des cartons qui seront évidemment plus grands que votre tirage, plus grands que la photo. Un des cartons deviendra le support, l'autre va devenir le passe-partout. Le support, il assure la rigidité de la photo et il va la protéger des remontées d'acidité. Donc le bois, typiquement le sous-verre, un fond en bois, le bois est évidemment acide. L'acidité va se transmettre à ce carton qui va éviter que l'acidité se transmette directement au tirage et donc qui va servir à la protéger. Le passe-partout, par contre, il faut en plus découper une fenêtre. On va la découper en biseau, c'est-à-dire avec un angle de 45 degrés, ce qui fait qu'on verra, et ça donne très joliment, le papier à dessin de couleur, l'âme du carton qui est blanche, et puis en dessous, le tirage, et le contraste des couleurs est très très joli. Vous avez trois solutions pour ça. Soit vous achetez un passe-partout tout découpé, de nouveau, il faut prendre un passe sans acide, soit vous le coupez vous-même au cutter, mais alors c'est quasiment impossible d'obtenir la découpe en biseau, soit vous achetez un outil spécialisé, qui sont en fait des couteaux inclinés à 45 degrés. On les vend généralement avec une règle, et ils coulissent sur la règle pour faire une découpe parfaite. Il faut compter 30 à 60 euros pour ce type d'outil, comparé à, pour un passe sans acide, 6 à 8 euros pour un passe-partout qui permet d'encadrer une photo à 4. Et donc, quand on fait le calcul avec le coût d'une grande feuille qu'on va découper soi-même en cadre, le fait qu'il y a un petit peu de déchets, je dirais que l'outil de découpe devient rentable si vous faites 30 à 40 passe-partout. Un avantage toutefois de l'outil à découpe, c'est que vous pouvez ajuster la fenêtre précisément à votre tirage. Moi, j'aime beaucoup pour certains portraits les recadrer en carré ou faire des formats particulièrement allongés. Et là, en ayant l'outil de découpe, on peut prendre en fait une fenêtre qui va coller parfaitement au tirage. Si vous découpez vous-même les passes et les fenêtres, je vous invite à changer très régulièrement les lames parce que le carton va user très vite la lame et en final, si vous voulez une coupe bien franche, il y a intérêt à changer régulièrement la lame. Alors, quelle couleur prendre pour le contrecoller? En idéal, on va prendre une photo qui va mettre en valeur la photo. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est soit reprendre une couleur dominante dans la photo, par exemple la couleur du fond, et reprendre une couleur qui va compléter cette couleur du fond, soit carrément chercher à faire un contraste. Pour le carton de fond, je vous invite à prendre du carton blanc, il est moins cher et de toute façon, celui-là, on ne le voit pas. Une fois mes cartons découpés, la fenêtre découpée, j'attache le tirage au carton de fond à l'aide de coins sans acide. On repère en fait à l'aide d'un crayon la position de la fenêtre, on place le tirage et avec trois coins sans acide, on attache le tirage. J'évite d'utiliser de la colle parce que comme je le disais tout à l'heure, la colle elle est permanente et donc on ne pourrait pas démonter le tirage. Si vous voulez néanmoins utiliser de la colle, de nouveau, prenez soin à prendre des colles sans acide. Les coins que j'utilise sont fabriqués par la marque Lineco, on les trouve en boutique d'encadrement et en boutique de matériel artistique. Ils ont l'avantage, outre qu'ils sont sans acide, d'être beaucoup plus larges que les coins photo qu'on utilise dans un album photo, et donc ils offrent un très très bon soutien du tirage. J'ai donc les deux cartons, sur un des cartons le tirage est fixé, sur l'autre carton la fenêtre du passe-partout était découpée, il reste à assembler les deux cartons. En effet, si on les assemble, ce sera beaucoup plus simple pour après monter le tout dans un sous-verre. Et alors c'est très simple. On place le carton avec le tirage vers le haut, le carton avec du passe-partout avec la fenêtre vers le bas, on dépose les deux tirages l'un contre l'autre et avec une bande assez large, on colle simplement les deux cartons ensemble. Donc la bande va coller un petit peu sur chacun des cartons. Il ne reste plus qu'à replier le tout. En fait, la bande forme une espèce de charnière qui fait que vous pouvez replier les deux cartons un petit peu comme un livre et les deux s'ajustent parfaitement l'un à l'autre. De nouveau, il vaut mieux prendre une bande sans acide. Personnellement, je me tourne aussi là vers Lineco pour le choix d'une bande. J'utilise des bandes en lin gommé sans acide. Vous obtenez de la sorte une photo qui est magnifiquement mise en valeur par son passe-partout, surtout si vous avez pris la peine de choisir une couleur de passe-partout qui complète la photo, et elle est alors prête à être montée sous verre et prête à être protégée. Si vous avez pris la peine de découper vos cartons à des tailles standards, vous trouverez facilement dans le commerce des sous-verres déjà tout assemblés avec le verre, etc. Vous n'avez plus qu'à y glisser votre photo, votre tirage. Les formats standards vont être 13-18, 18-24, 20-30 ou 20-28, 30-40, 40-50, 50-60. Visitez une boutique, vous verrez les principaux formats. Si vous êtes un petit peu plus bricoleur, on vend dans les magasins de bricolage des baguettes. Et généralement, le magasin va vous la découper, ce qui vous permet en fait alors de prendre n'importe quelle taille et de monter votre photo sous n'importe quelle taille. Avant de placer la photo dans le sous-verre, prenez la peine de nettoyer la vitre. C'est une vitre, donc un simple nettoyant à vitre comme on utilise pour les fenêtres extérieures suffit. Laissez-la bien sécher, passez dessus avec une petite brosse pour enlever les poussières juste avant de monter. Enlevez également les poussières du tirage, parce que si vous enfermez les poussières dans le cadre, elles y resteront évidemment. Les plus attentifs et les plus pinailleurs d'entre vous pourront coller les bords du sous-verre avec un ruban adhésif qui va isoler davantage en fait le sous-verre des gaz et des poussières. C'est-à-dire que les poussières ne pourront plus alors rentrer dans le sous-verre. Avant de monter la photo dans le sous-verre, on peut annoter sur le fond, sur le passe-partout ou sur le tirage lui-même Personnellement, je me contente de mettre au dos du tirage le nom de la personne et la date au crayon, donc en prenant bien soin évidemment de ne pas appuyer trop fort pour ne pas abîmer la face visible du tirage. Vous trouverez aussi dans le commerce des vernis et des fixatifs qu'on pulvérise sur l'impression et qui sont censés en améliorer la résistance aux UV et la résistance dans le temps. J'ai pas mal cherché pour trouver un test d'efficacité de ces produits et j'en ai trouvé aucun. Les fabricants vous disent le produit est intéressant, il est anti-UV, etc. Mais vous ne trouvez aucun test, aucune mesure qui montre qu'en fait ces produits ont réellement un effet. Comme j'ai pas pu valider l'efficacité de ces produits, que par ailleurs je sais qu'en montant sous verre, le tirage va se conserver facilement de plus de 100 ans, franchement je vois pas l'intérêt d'utiliser ce genre de produit. J'espère que cet épisode vous a donné envie de revisiter les portraits que vous avez pris dans le passé, de faire réaliser ou de réaliser vous-même un agrandissement et de le monter sous verre avec un passe-partout. Gardez en tête que le secret de la conservation, c'est le choix des matériaux, la qualité du tirage et le fait qu'on ne doit jamais monter le tirage de façon permanente sur son support. On doit pouvoir enlever, sans abîmer le tirage, la photo. Voici qui conclut le thème principal de l'épisode 2. Vos commentaires, vos remarques, vos suggestions sont évidemment les bienvenus. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, ça a nettement dépassé mes attentes. Messages d'encouragement de DJ Elef, de Jiok, de Maud, qui me parle de son intérêt également pour l'argentique, de Tom Burt, un paysagiste et le membre du club photo du Citral de Lyon. Des encouragements également reçus de différents blogueurs, le blog Avec Modération, un blog au demeurant assez intéressant parce qu'on y parle de bon vin, et le blog Audiopod de Christophe Schmitt, qui ont également laissé un petit message d'encouragement pour l'épisode numéro 1. J'ai reçu également deux suggestions, une suggestion de Vincent Dayer qui me dit « mais il n'est pas toujours évident en fait en écoutant la description de comprendre à quoi la boîte de dialogue doit ressembler », donc il suggère de peut-être rajouter une petite capture d'écran. Vincent, je t'ai entendu, pour cet épisode, je propose de publier dans quelques jours un PDF qui viendra compléter de façon visuelle le contenu de l'épisode. Dominique Wolf fait une remarque tout à fait pertinente par rapport à l'épisode 1 et par rapport à la balance des blancs, puisqu'il dit « faire la balance des blancs enlève souvent l'ambiance particulière des photos en éclairage artificiel, par exemple l'éclairage sous bougie, et va donner à la photo un aspect un peu artificiel. Donc, dit-il, ce n'est pas à faire systématiquement en fonction de l'ambiance qu'on veut restituer. » Et je suis tout à fait d'accord avec ça, Dominique. C'est clair que la balance des blancs, c'est une mesure un peu clinique quelque part. Donc ça donne des photos qui parfois peuvent être un peu cliniques, un peu trop parfaites. D'où, j'y reviens, l'intérêt de travailler en RAW. Parce que vous faites votre photo en RAW, vous prenez votre mesure, comme on l'a expliqué dans l'épisode précédent, et dans le logiciel, quand vous développez la photo, vous pouvez vous dire, tiens, en final, en me basant sur la mesure, je perds un peu le caractère de la photo, et vous pouvez simplement manipuler les curseurs de la température de couleur pour remettre, réintroduire juste ce que vous voulez de l'ambiance d'éclairage d'origine. Et donc, c'est clair que la balance des blancs, c'est pour des couleurs fidèles. Parfois, pour des raisons artistiques, on ne veut pas des couleurs fidèles. Enfin, je rappelle les informations pour laisser un commentaire. Vous avez deux solutions. Soit vous visitez le site www.déclencheur.com. Vous pouvez là laisser un commentaire texte et c'est complètement gratuit. Soit vous utilisez la boîte vocale. J'utilise les boîtes vocales de la société VoxUp. Trois numéros de téléphone. Depuis la France, vous faites le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute. Et on vous demandera de saisir le code service 8208. Depuis la Belgique, vous faites le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute. Et vous saurez saisir le même code service 8208. Enfin, depuis la Suisse, vous faites le 0901 701 705 à 2,50 francs la minute. Et vous saisirez là aussi le code service 8208. Attention, si vous laissez un commentaire sur la boîte vocale, vous devrez confirmer votre commentaire. Donc écoutez bien les instructions en ligne. Comme d'habitude, les commentaires seront repris sur le site et dans le podcast. Si vous n'avez pas de commentaires sur l'épisode, prenez quand même la peine de laisser un petit mot d'encouragement. Ce podcast prend pas mal de temps à produire et vos encouragements m'aident vraiment à trouver la motivation pour le faire. Vous pouvez également prendre quelques instants pour aider à faire connaître le podcast en visitant votre annuaire podcast préféré, qu'il s'agisse d'iTunes ou d'un autre, et voter pour Déclencheur. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner. Pour ce faire, il suffit de visiter le site www.déclencheur.com. L'abonnement est évidemment complètement gratuit. S'abonner au podcast veut simplement dire que vous recevrez tous les nouveaux épisodes automatiquement. La bande sonore de cet épisode nous est fournie par Harley Glotzer avec son morceau intitulé « The Birth of Language, The Awakening of Sound, The Formation of Meaning, The Elation of Calm », un morceau distribué sous licence Creative Commons. Je vous dis à bientôt pour le troisième épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Ce troisième épisode sera consacré à l'histogramme.